Là, j'ai le marron. Ah, ça, ça marche. Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir tout le monde. C'est comme revenir dans la famille après plusieurs années. Revoir vos beaux visages, un peu plus ridés peut-être, comme le mien. Et de voir aussi des nouveaux que le Seigneur bénisse ici en envoyant des nouvelles personnes que... Après, je ne sais pas, une quinzaine d'années que je suis parti, que je ne connaisse pas. Fait que, gloire à Dieu. C'est beau de voir ça. Que le Seigneur bénisse le rassemblement ici. Y a-t-il quelque chose que je fais qui n'est pas correct? Ce que j'aimerais parler ce matin, c'est au sujet de, oui, l'Association des fermiers chrétiens, mais la préoccupation en général au sujet de l'évangélisation. Fait que si vous voulez, on va commencer, on va prier et que le Seigneur puisse lui-même nous parler. Seigneur, merci qu'on puisse s'approcher de toi entre frères et sœurs et s'attendre à toi que tu nous parles, que tu touches nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, que tu viennes nous rejoindre sur un sujet qui est parfois un peu délicat, qui vient nous déranger, qui nous sollicite un peu trop. Et Seigneur, on te prie que tu appliques quand même ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à parler, aide-nous à entendre aussi, et un cœur docile pour écouter. Au nom de Jésus. Amen. Fait que oui, l'Association des fermiers chrétiens, y en a-tu qui ne connaissent pas pantoute, c'est quoi? Ben là, qu'est-ce que je fais ici? Je vais faire quand même un petit résumé. Bon, OK. Êtes-vous prêts pour la saison 2023? Ça, c'est à Saint-Tite. Et vous voyez là, les banderoles qui sont là. Comment ça se fait? Ils ne s'ajustent pas. Ça n'a pas bougé, ça. Ah non, OK, c'est vrai. Il faut que je vous... OK. Ça s'en vient, mon affaire. Vous voyez les petites banderoles qui sont là? Bien, il y a un sens, une signification à ces couleurs-là. Est-ce que vous savez c'est quoi? La couleur or, si on commence avec ça. Hein, la couleur or ici, là, c'est le ciel, un endroit parfait. Où est-ce qu'on voudrait tous aller? Fait que, juste pour vous expliquer un petit peu, là, on accueille les gens, on a tous une petite table comme ça, avec plein d'articles qui ont tous les cinq couleurs en question. Et les gens viennent, puis c'est le fun parce que tu as déjà un message, tu sais quoi leur dire, puis eux autres sont contents, ils viennent pour un cadeau. Ça va bien? Et c'est simple, tu sais, ce que tu as à dire, puis ça prend peut-être 2-3 minutes, peut-être plus si la personne veut parler, mais c'est 2-3 minutes, tu le remets. Et puis c'est visuel, donc ils peuvent se souvenir de ça. Fait que là, bien, je les accueille, la couleur or. Ça parle du ciel, comme on disait. Mais il y a un problème pour aller au ciel, si je reviens en arrière, là. C'est la couleur sombre qu'on voit ici, là. La couleur sombre, ça représente tout le mal qu'on a fait. Le ciel est parfait, mais moi, je ne suis pas parfait. Je ne peux pas aller au ciel, parce que si j'allais au ciel, le ciel ne serait plus parfait. Fait qu'on a un gros problème, tout le monde. On ne peut pas aller au ciel, personne de nous autres. Mais il y a une solution. Et là, on leur pose la question, c'est la couleur rouge. D'après vous, ça serait quoi la couleur rouge? Puis ça, là, ça nous donne toutes sortes d'informations sur ce qu'ils pensent. Des fois, ils vont dire, bien, arrête de faire le mal. Demande pardon. Ou c'est le Parti libéral. Oh, peu importe ce qu'ils disent, là, c'est juste pour... attirer leur attention. Il y en a qui disent c'est le diable. Mais bon, on continue la petite explication que la couleur rouge, ça représente l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous en envoyant Jésus qui est mort à la croix. Là, oui, c'est vrai, Jésus est mort à la croix. Ils ont une petite notion de base. Il a versé son sang rouge. C'était justement pour porter à notre place le mal qu'on a tous fait en pointant la couleur sombre. Et ça, c'est un cadeau. Si je le reçois, ce cadeau-là, que je me détourne du mal que j'ai fait, je peux, la couleur blanche, être purifié, lavé, pardonné, clean. Et sur cette base-là, un jour, je pourrais aller au ciel, la couleur or. Et finalement, la couleur verte, ça représente la croissance. Oui, c'est l'espérance habituellement, mais c'est des fermiers chrétiens, donc ça représente la croissance. Une petite plante verte, pour grandir, il faut l'arroser. Mais la foi que je place en Jésus, ici, à la couleur rouge, j'ai aussi besoin d'être arrosé pour grandir. Comment je fais pour l'entretenir, cette foi-là? C'est en allant avec d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur, en priant, dans mes propres mots, pas « je vous salue », en se réunissant avec des frères, en partageant notre foi, en lisant la Bible, notre foi va grandir. Donc, en résumé, aller au ciel, ce n'est pas quelque chose qu'on ne pourra jamais mériter. C'est quelque chose que Jésus donne et c'est gratuit. C'est pour ça qu'on vous offre un article gratuit. Et là, on les invite à choisir. Vous voyez, ça m'a pris comme 2-3 minutes. Puis c'est tout. Puis là, on prend un petit pas en arrière, choisissez votre cadeau. Puis des fois, moi, ce que je fais, puis on encourage les gens, tu sais, à relancer un petit peu. Bien, croyez-vous en Dieu, vous? Là, s'il dit, il joue avec les stylos. Là, il est en train de te dire non-verbalement, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas prêt à en parler. Peut-être l'année prochaine, quand je vais revenir. Parce que ça arrive, comme l'été passé à Saint-Tite, il y en a un qui dit, moi, je viens ici à toutes les années. Mais là, j'ai compris. Là, il avait entendu le message, puis là, c'est comme, il était plus prêt. Ça l'atteignait la centrale. Fait que, c'est le fun. Et puis, un autre, je me souviens, à Saint-Tite, il dit, parce que c'était la première été qu'on revenait, il dit, j'ai amené toutes mes amies. Là, je veux que tu leur racontes l'histoire. Puis c'était des jeunes, c'est beau de voir ça. Puis là, plusieurs, 5-6, là, sont partis avec des Nouveaux Testaments. Fait que, bon, c'est merveilleux. Là. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de malaise. Il y a déjà une histoire préparée. Puis là, si la personne, au lieu de dire « bof, tu sais, moi, Dieu », dit « ben oui, moi, j'y crois, je prie à tous les jours. » Ah, ouais, tu sais. Puis là, tu t'engages la conversation, puis c'est le fun, c'est naturel. Fait que c'est une occasion de témoigner, parce que des fois, témoigner, ça fait peur. Mais on est comme coincé. Le Seigneur nous demande, tu sais, soyez mes témoins, allez parmi toutes les nations, soyez mes témoins. Mais il y a comme une manière, moi, c'est sûr, ça m'intéresse parce que cherche ce moyen-là. Il y a d'autres moyens aussi. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Tu sais, mais on a la Villa du Carmel, par exemple. Puis comme au camp anglais, par exemple, parce que je connais le camp anglais, 66% des enfants viennent pas de familles chrétiennes. Et là, ils commencent à 0,0. Et puis, l'autre 33% qui viennent d'une famille chrétienne, des fois, ils ne sont pas chrétiens encore. Fait qu'une grosse proportion, même de s'impliquer dans la cuisine, de s'impliquer comme moniteur, monitrice, c'est merveilleux, là. C'est une belle façon. Il y a d'autres façons. Il y a comme Jésus peut aider. C'est une affaire qu'on a commencé là, sur Internet. Puis là, tu chattes avec des personnes. Il y a le GBU, Groupe biblique universitaire. Hein, il y en a des moyens. Fait que si ce n'est pas un, ça peut être un autre, mais il y en a. Et je pense qu'on est appelé à s'impliquer. Mais là, je dérape un petit peu de ma présentation. L'AFCC, l'Association des fermiers chrétiens, là, il y a une douzaine de districts. Et là, nous, c'est de la Mauricie, juste peut-être pour vous présenter un petit peu. Au Canada, il y a une centaine d'événements, puis ça rejoint à peu près 100 000 personnes. Fait que c'est le fun quand même, tu sais, de présenter l'Évangile à 100 000 personnes, c'est vraiment bien. Au Québec, 50 à 70% de nos visiteurs sont âgés de moins de 35 ans. Et ici, au Québec, c'était 30 000 personnes qu'on rejoignait sur 114 jours d'évangélisation, puis ça impliquait 200 chrétiens provenant d'une centaine d'églises. Fait que, moi, c'est un autre beau côté que je trouve, c'est que tu peux t'impliquer, travailler avec un autre chrétien qui aime le Seigneur de l'église d'à côté, que tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer, de connaître, puis là, ben, tu travailles avec cette personne-là, puis on apprend à se connaître, puis à s'aimer comme on devrait. Fait quoi ici en Mauricie? Il y avait eu deux événements. Il y a eu l'expo de Trois-Rivières l'année passée, puis il y a eu Saint-Tite. Fait que c'était 8 600 personnes, 1005 Nouveaux Testaments qu'on a remis. Hey, 1005, là, c'est 10 caisses de sang, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est quand même du Nouveau Testament, ça, des discussions. Est-ce que la personne t'est intéressée? Là, tu l'as. Ben oui, ça m'intéresse, tu sais, je veux le lire. Oui, il y en a qui venaient et ils disent, moi, c'est ça que je veux, en pointant vers un Nouveau Testament. OK, c'est bien. Et là, tu avais une belle conversation. Il y en a des fois, la conversation, ça continue pendant une demi-heure. C'est correct, tu sais, si on n'est pas trop achalandé. Puis j'accélère un petit peu, là. Donc, cette année, on a été aussi à Saint-Pierre-les-Béquets. On est retourné, on n'avait pas été l'année passée. Il nous manque du personnel, il nous manque du monde. Mais on est retourné à Saint-Pierre-les-Béquets. Puis là, c'est le fun parce qu'ils ne connaissent rien. C'était comme une heure au nord de Trois-Rivières, 45 minutes au nord de Trois-Rivières. Puis là, tu sais, tu les approches, puis ça part comme à zéro. Tu lui expliques les couleurs, c'est pas du connu. Et puis, ça, c'était à l'expo l'année passée. 3200 personnes. Les articles qu'on a donnés, mais chaque article qui part, c'est quelqu'un à qui on a exposé l'Évangile. À Saint-Tite, c'est le fun à Saint-Tite parce que c'est comme la dernière chose à laquelle les visiteurs s'attendraient. T'sais, ils ne s'attendaient pas le matin en se levant, hey, on s'en va à Saint-Tite, d'entendre parler de l'amour de Jésus pour eux. Et puis, comment que c'est un beau concours d'événements là, qu'on puisse se trouver là-bas. Faut prier aussi parce que le type là, qui nous donnait son fonds de cours, dans le fond, là, c'est 20 par 40, là, c'est une grosse affaire, puis ça coûte cher, cette affaire-là. Il a vendu sa maison. Fait que, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Donc, il y a deux autres événements qui s'en viennent cette semaine. Là, ça commence l'expo de Trois-Rivières. Il y a Western aussi, au mois de septembre. Vous pouvez vous inscrire en allant là-bas. Vous pouvez m'appeler, c'est mon numéro de téléphone personnel. C'est correct, puis je vais vous guider un petit peu là, pour, pour vous inscrire. Et le mieux, là, c'est d'écrire à cet endroit-là, afcc.mauricie, parce que d'y aller par courriel, c'est plus facile. Donc, j'aimerais ça maintenant. Hey, j'ai comme un petit... Ben oui, c'est ça. C'est... j'ai un matou dans la gorge. Ah, OK. OK. Ça vous fatiguait, hein? Bon. OK. Bon. Mais là, je ne peux pas pour manger ça quand je vous parle. OK. J'aimerais ça qu'on regarde... Dans Jean 17, les expressions « ceux que tu m'as donnés ». Et ça, je trouvais que c'était un encouragement à l'évangélisation, en lien avec ça. Et puis, je lis ici, là, au verset 2, ça dit « ben, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et ce que je trouve beau, je vais vous dire tout de suite, là, c'était la souveraineté de Dieu, qui est le premier impliqué dans l'évangélisation. C'est lui qui run le show. Nous autres, on suit après lui, mais c'est lui qui run le show. C'est lui qui a donné ces âmes-là à Jésus. Ah, ouais. C'est pas moi qui dois me forcer pour persuader, peut-être manipuler les émotions de la personne. Viens à Jésus, là, il en a vraiment besoin. Il a besoin de toi, il pleure, là, tu sais. Puis il a besoin que tu viennes, que tu l'acceptes. Ça serait vraiment, vraiment gentil. Non. Le Seigneur travaille dans les cœurs. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Hein? Ça, là, si on recule un petit peu, là, c'est Jean 17, c'est la prière de Jésus. C'est pas le Notre Père, la prière de Jésus. Jésus, il ne priera pas le Notre Père, tu sais, pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons. Non, ça, c'est la prière pour nous enseigner. Mais ça, c'est sa prière. C'est la seule prière qui dure tout un chapitre. Tu sais, des fois, tu sais, il prie toute la nuit, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il prie. Mais là, on en a une bonne grosse prière, un chapitre de long, puis qu'on voit l'interaction entre Jésus et son Père, puis la game qu'il joue, puis c'est quoi la vraie réalité? C'est intéressant. Et puis, comment qu'il se parle? C'est quoi les enjeux qui les préoccupent? Là, c'est ceux que tu m'as donnés. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Verset 6. J'ai sauté un petit peu là, parce que sinon, je n'avais pas le temps. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et puis, si je tourne au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. On va en parler un peu plus tard. Ça semble rough un petit peu. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et là, si je saute au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. Fait que là, il prie pour qui? Au début, il prie pour lui, pour être sanctifié. Après ça, maintenant, il prie pour ses disciples, ceux qui étaient dans le monde, puis qui ne sont plus dans le monde, qui n'est plus avec eux autres. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, eux, c'est qui? C'est les 11, les 11 disciples. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. C'est une autre chose qu'il fait pour nous, dont il prend la responsabilité. Et là, j'accélère un petit peu, là. Et si je vais au verset 20, c'est le troisième sujet de prière. C'est pour ceux qui vont croire par les paroles que les disciples vont présenter. Fait que Jésus nous a apporté la parole que le Père lui avait donnée. Les disciples vont présenter cette parole-là, puis il y en a qui vont se convertir. Et c'est aussi nous qui avons été dans ce cas-là, hein, qui avons entendu la parole, qui l'avons reçue. Puis c'est aussi eux autres à qui on veut parler puis qu'on veut évangéliser. Puis ils prient pour eux autres. Ce n'est pas pour eux, verset 20, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Et là, si on saute au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Et là, il prie pour qu'on soit avec Jésus. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'expression « ceux que tu m'as donnés », c'est un cadeau que le Père fait à Jésus. C'est, si on me donne quelque chose, c'est qu'on ce qu'on donne, c'est un cadeau. Fait que nous, les croyants, on est un cadeau du Père à Jésus. C'est quand même beau, c'est le fun, c'est bien. Et peut-être comme sorte de cadeau, on peut penser qu'on est l'épouse que le Père donne à Jésus. Fait qu'il fait un bon travail, le Père, pour amener ce cadeau-là à Jésus. Et c'est une épouse. Réjouissons-nous dans Apocalypse 19, 7. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et l'Église, c'est son épouse. Ça va jusqu'à là, hein? Ça ne fait pas controverse. Et c'est tout ce beau sujet-là de l'élection, que Dieu, le Père, est à l'œuvre pour élire, choisir, donner. Et c'est lui qui gère, là. C'est son travail. Dans Éphésiens chapitre 1, 4 à 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Fait qu'avant la fondation du monde, on n'était pas là. Certains disent, c'est parce que Dieu, lui, il regarde dans le corridor du temps, puis il voit qu'on va l'accepter. Fait que là, il nous choisit. C'est comme s'il a vu le film. Ah, tu vois, il va jouer, Gilles va l'accepter, fait que là, je vais l'aider. Mais là, ça voudrait dire que c'est Gilles qui a décidé, puis c'est à lui la gloire, parce que Gilles a décidé, il était plus smart que les autres. Mais non, c'était pas ça. Il dit, renversez pas la chose. La cause que je vais créer, c'est pas elle. L'effet que je vais créer quand Gilles va accepter le Seigneur, c'est pas la cause de ce que je vais faire. Voyons donc, c'est moi qui vais décider. C'est moi qui l'ai élu. Sinon, c'est pas élu, élire. C'est moi, j'ai les mains liées, Gilles a décidé d'accepter, il faut que je l'élise. Non. Fait qu'avant même que Gilles, avant la fondation du monde, là, je te prends un exemple, parce que... Mais avant même que Gilles ait fait quoi que ce soit qui mérite quoi que ce soit ou qui ne mérite pas, il avait son idée de fait, avant la fondation du monde, d'avoir des élus. Et ça, des fois, ça dérange du monde. C'est quoi cette affaire-là, tu sais, qui est des chouchous, qui... Puis les autres, pas juste, non. Tu sais, ça se passe pas de même, là. T'sais, c'est quoi? On est des automates, là, des pantins, on se laisse manipuler, nous autres, par Dieu qui tire des ficelles. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, il va ignorer toutes les autres. C'est un monstre. Il y en a qui disent qu'à cause de la doctrine de l'élection, que Dieu est un monstre. Mais bon, on va y revenir plus tard. Concentrons-nous sur le beau côté de la foi. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés. Il nous a donné un destin, une destinée, avant que ça l'arrive. Prédestinés dans son amour. Si c'était juste, comme je disais, qu'il avait vu dans le corridor du temps, c'est pas par amour, c'est par forcément, il m'a accepté, j'ai vu dans sa liberté, il m'a accepté, il faut que je l'élise. Non. Dans son amour. Si c'est un vrai amour, c'est parce qu'il ne méritait pas, puis je l'ai choisi, je l'ai élu. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Si c'est selon le choix que la personne va faire 2 milliards d'années plus tard, avant la fondation du monde, bien, c'est pas selon mon plaisir, ça a été selon le plaisir de la personne qui l'a choisi, qui m'a choisi. Non. Il dit, c'est moi qui décide. C'est selon mon bon plaisir. De Dieu, je parle. Donc, selon le bon plaisir de sa volonté. Puis c'est ça qui est étourdissant. Tu sais, Seigneur, tu m'as rejoint. C'est sûr que moi, j'étais perdu, j'étais aveugle, j'étais mort dans mes offenses et mes péchés. Et tu m'as ranimé, tu m'as amené à toi, tu m'as séduit, tu m'as charmé, tu m'as attiré. Gloire à Dieu. Et c'est ça le beau côté attrayant de tout ça. un autre verset, je vais sauter par-dessus. Fait que la doctrine de l'élection et de la prédestination est une grande vérité qui nous donne la paix, car l'évangélisation est d'abord un projet qui commence par Dieu. C'est ça un peu ma thèse et ma paix là-dedans. Dans le fond, quand je m'en vais, d'une manière ou d'une autre, ça peut être au camp, à la villa, tu sais, je présente l'Évangile, je cherche ceux que Dieu cherche. Ça ne t'intéresse pas? C'est pas grave. Tu sais, peut-être plus tard, je ne sais pas, là. Mais il y en a que je sais, si le Père les a donnés au Fils, ça va cliquer. Et ça continue un peu. Tous ceux que le Père me donne. Hein? Fait que le thème, c'était ceux que tu m'as donnés. Mais là, c'est encore la même chose. Jésus revient avec cette même thématique-là. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Il n'y a aucun doute. Tous ceux-là là, que le Père me donne, ils vont venir à moi. Inquiète-toi pas. C'est clair. Viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Fait qu'on voit le caractère souverain de Dieu qui contrôle les enjeux dans l'évangélisation. Au verset 44 du même chapitre, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est fort, hein, tu sais? Pas capable. Même ceux qui voudraient, ceux qui disent qu'ils cherchent Dieu, ils sont pas capables. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu va s'y prendre d'une certaine façon, il va parler à leur cœur. Et puis quiconque a entendu cet enseignement-là du Père, entendu le Père, et reçu son enseignement, vient à moi, s'il répond. Et la fin du même chapitre, chapitre 6, et il ajouta, parce que là, ça grognait, ça chiolait, puis les gens n'étaient pas contents, de moins en moins contents. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il répond, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Dès ce moment, en disant ça, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. J'aime pas ça ce que tu dis, Jésus. Cette doctrine-là, que c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui choisit, puis moi, c'est pas moi, c'est lui, puis que je suis pas capable de venir à toi. Hein, c'est bon, ça tourne autour de ça. Et oui, on va en reparler, comme je disais, là, de cette dimension-là. Est-ce qu'on est des pantins, des automates manipulés par Dieu? Mais ce que je veux insister, c'est sur la notion que Dieu est à l'œuvre et on peut être en paix. Quand on a à présenter, quand on a à parler, juste d'être témoin, d'ouvrir la bouche avec un sourire, ça ne dépend pas de moi, de ma performance. Ce n'est pas moi qui ai une obligation de résultat. Sinon, ça serait écrasant. Cette personne-là va aller en enfer parce que je n'ai pas travaillé assez, je n'ai pas prié assez. Mais pourquoi je prierais? Ça dépend de la personne. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu ne contrôle pas. Si je pensais comme ça, dans le fond, ça dépend tout de moi. J'en porterai le fardeau. Non, il dit, porte pas le fardeau. Il dit, ouvre la bouche, présente la parole que tu as reçue, puis le reste, c'est Dieu qui agit. Ils ne peuvent pas de toute façon par eux-mêmes. Nul ne peut venir à moi. Fait, calme-toi, là, mais ouvre la bouche. Parle, c'est comme Paul, tu sais, ouvre la bouche à Corinthe, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Une ville dévergondée, perdue, comme ça se peut pas, comme Corinthe. Non, j'ai un peuple nombreux, c'est moi qui est à l'œuvre. Fait que c'est ça que je trouvais encourageant et beau. j'aimerais ça, juste pour résumer un petit peu, là, il y avait cinq choses, il leur donne la vie éternelle, il fait connaître à tous ceux qui t'ont donné. Mais je pense que j'en ai parlé quand même pas mal. Et j'aimerais prendre une illustration, c'est de Frank Jenner, de Sydney, en Australie. Il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de lui? Oui. Et j'aimerais ça vous lire une petite... il y a un petit livre décrit sur ça. Là. C'est assez bien documenté. Puis il y aurait tous les noms. Là, je ne les ai pas dans l'histoire que je vais vous lire. Ça accroche pas avec le casque, micro-casque. Bon. Je vous lis l'histoire, OK? Un petit peu son récit. Tout a commencé il y a plusieurs années à l'église baptiste Lansdowne à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre. Le service du dimanche matin, comme maintenant, est presque terminé quand un homme assis à l'arrière leva la main en disant « Excusez-moi, pasteur, est-ce que je peux partager un court témoignage? » OK, je te donne 3 minutes. OK. L'homme dit « Je viens juste d'aménager dans cette ville. Autrefois, je demeurais à Sydney, en Australie. Il y a quelques mois, je suis retourné en visite chez mes parents. Et je marchais dans la rue Georges. » Fait que là, il était retourné en Australie, il marche sur la rue Georges à Sydney. Vous savez, cette rue, dans le quartier des affaires, un homme bien habillé est sorti d'une boutique et m'a offert un feuillet en disant « Excusez-moi, monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire, ce ne sera pas long. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous au ciel ou en enfer? Merci, que Dieu vous bénisse. » OK. J'ai été surpris par ces paroles. Personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Je les remercie respectueusement, mais tout le long de mon voyage de retour à Londres, cette question m'a profondément troublé. J'ai appelé un ami et merci Seigneur, c'était un chrétien, il m'a conduit au Seigneur. Tout le monde a applaudi et l'a invité dans leur assemblée. Il a pris son 3 minutes. La semaine suivante, ce même pasteur, c'est Francis Dixon. Dans le fond, je vais vous mettre sa petite photo ici, là, sur le petit vidéo sur Internet. Il y a plus d'images, il y a plus de noms, il y a plus de détails. La semaine suivante, ce même pasteur, Francis Dixon, s'envola vers Adelaide, en Australie. 10 jours plus tard, au milieu d'une série de conférences dans une église baptiste, une dame est venue le voir pour lui demander conseil. Le pasteur a voulu savoir où elle en était dans sa vie chrétienne. Elle lui dit « Autrefois, j'ai vécu à Sydney il y a quelques mois, alors que j'y étais en visite chez des amis. Je faisais des courses de 10 minutes sur la rue Georges. Un homme à l'allure distinguée est sorti d'une boutique et m'a offert un feuillet en me disant « Excusez-moi, madame, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ce ne sera pas long. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous au ciel ou en enfer? Merci, que Dieu vous bénisse. » J'ai été troublé par ces paroles. Quand je suis revenu chez moi à Adelaide, sachant qu'il y avait une église tout près, j'ai rencontré le pasteur qui m'a conduit à Christ. Alors, je peux maintenant vous dire que je suis une chrétienne. Le pasteur anglais, le Francis Dixon, a été surpris par ce témoignage 2 fois dans 2 semaines. Il avait reçu la même histoire. Il est parti par la suite pour une autre conférence à l'église Mount Pleasant à Perth, en Australie, l'autre bord de l'Australie. À la fin de la conférence, un ancien de l'église l'a invité à dîner dans un restaurant, vous me voyez venir. Durant leur conversation, il a demandé à cet homme comment il avait été sauvé. « J'ai grandi dans une église depuis l'âge de 15 ans. Je n'avais jamais pris d'engagement pour le Seigneur. J'avais seulement suivi le groupe comme beaucoup d'autres. Par la suite, à cause de mes capacités administratives, j'en suis venu à occuper un poste influent. Il y a 3 ans, alors que j'étais en voyage d'affaires à Sydney, un homme est sorti d'une boutique et m'a offert un feuillet en me disant « Excusez-moi, monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Si vous mouriez aujourd'hui, où seriez-vous pour l'éternité? » Au ciel ou en enfer? Merci, que Dieu vous bénisse. » J'ai essayé de lui dire que j'étais un ancien dans une église, mais il ne m'a pas écouté. Tout le long de mon voyage de retour à Perth, sa question continuait à me hanter. Je racontais cela à mon pasteur, pensant qu'il sympathiserait avec moi. Eh bien, non. Il m'a dit alors combien il était conscient que je n'avais pas de relation avec Jésus. Et il avait raison. Il y a maintenant 3 ans, que mon pasteur me conduit au Seigneur. Ce pasteur, Francis Dixon, est retourné en Angleterre pour une série de conférences. Il a raconté ses 3 témoignages. À la fin d'une conférence, 4 anciens s'avancèrent et expliquèrent qu'eux aussi avaient été sauvés il y a plusieurs années à cause d'un homme sur la rue Georges qui leur avait posé la même question. La semaine suivante, le pasteur s'est rendu à Keswick, dans les Caraïbes. Et puis là, c'était, bon, tu sais, ça a l'air monté, là, un coup monté, là, mais... Tu sais, c'était bien documenté, je pense, crédible. Et puis, l'idée, le concept, là, c'est que Dieu agit. Est-ce que c'était bien intelligent, élaboré, un long discours persuasif? Non, il a annoncé comme la vérité. Puis, mon père avait fait ça, là, un petit dépliant, « Si vous mouriez aujourd'hui », puis il y avait un petit commentaire, tu sais, pour pouvoir donner ça aux gens. Aussi, parce qu'il avait été touché aussi par cette histoire-là. En passant, mon père est dans le coin, avec ma mère, et puis dans une résidence pour personnes âgées. Il aurait voulu venir, mais il était poqué un matin. Il ne pouvait pas venir. Fait que ça sera que partie remise. Donc, dans les Caraïbes, à une convention missionnaire, il a partagé de nouveau ses mêmes témoignages. À la fin de la conférence, 3 missionnaires s'avancèrent et lui dirent qu'ils avaient été sauvés depuis plusieurs années auparavant par un homme qui leur avait posé la même question sur la rue Georges à Sydney. Il s'est rendu ensuite à Atlanta, Georgia, là, aux États-Unis, pour parler à une convention d'aumôniers de la marine. Il était là pour 3 jours. Il a parlé devant plus de 1 000 personnes, 1 000 aumôniers. Après cela, le responsable des aumôniers l'a invité au restaurant. Le pasteur lui a demandé comment il était devenu chrétien. « Oh, ça, c'était vraiment un miracle. J'étais un matelot sur un bateau de guerre et ma vie était mauvaise. Nous faisions des exercices dans le sud du Pacifique et nous sommes arrêtés à Sydney pour faire le plein. » Nous sommes descendus à King Cross, où je me suis trompé d'autobus et j'ai débarqué sur la rue Georges. Comme je descendais de l'autobus, j'ai vu comme un fantôme, un homme a sauté devant moi, il m'a poussé un feuillet entre les mains, il m'a dit « Excusez-moi, monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire, ce ne sera pas long. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous en enfer, au ciel ou en enfer? Merci, God bless. » La crainte de Dieu m'a soudainement dégrisé. J'ai couru directement au bateau, j'ai cherché l'aumônier qui m'a conduit au Seigneur. J'ai ensuite décidé de me préparer pour le ministère et maintenant je suis responsable de 1000 aumôniers qui travaillent pour le salut des âmes. Quelques mois plus tard, ce pasteur anglais s'est rendu à la conférence du Nord-Est de l'Inde. À la fin, le missionnaire l'a amené dans son humble petite maison pour un repas. Le pasteur lui a demandé comment un hindou était venu à Jésus. J'ai grandi dans une situation très privilégiée. J'ai travaillé pour la mission diplomatique de l'Inde. J'ai voyagé à travers le monde. Je suis tellement content d'avoir été pardonné mes péchés et que mes péchés soient couverts par le sang de Christ. Un jour, mon travail m'a amené à Sydney, en Australie. Je faisais quelques achats pour mes enfants avant de retourner chez moi lorsque je suis passé sur la rue Georges. Un gentil monsieur d'un certain âge est arrivé devant moi et m'a donné un feuillet en me disant « Excusez-moi, monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ce ne sera pas long. » Si vous deviez mourir aujourd'hui, où seriez-vous pour l'éternité? Au ciel ou en enfer? Merci. Je l'ai remercié, mais sa question m'a troublé pendant tout le reste du voyage. À mon retour aux Indes, j'ai été voir notre prêtre hindou pour lui poser la question. Il n'a pas pu m'aider, mais il m'a dit que si je voulais satisfaire ma curiosité, je pouvais aller voir le missionnaire à l'église au bout du chemin. C'était un très bon conseil, car ce même jour, le missionnaire m'a conduit au Seigneur. J'ai aussitôt quitté l'hindouisme et j'ai commencé à me préparer pour le ministère. Et voici aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis responsable de tous ces missionnaires qui, ensemble, ont conduit des milliers de personnes au Seigneur. 8 mois plus tard, en 1953, ce même Francis Dixon prêchait à Sydney. Il a demandé à un serviteur de Dieu s'il connaissait cet homme qui distribuait des feuillets sur la rue Georges et qui posait toujours la même question. « Oui, je le connais. C'est M. Frank Jenner. » Ils allèrent le visiter à son appartement. Frank Jenner leur servit du thé et le pasteur lui a raconté tous les témoignages qu'il avait entendus pendant les 3 dernières années. Frank Jenner était assis devant eux, des larmes coulaient de ses joues et s'est mis à genoux. Il a dit, « Ô Seigneur, tu as été patient avec moi. » Il leur a raconté son histoire. « J'étais un matelot dans la marine, sur un bateau de guerre. Je vivais une vie déréglée. » Ça, c'est l'histoire de Frank Jenner. Un homme sur la rue m'a invité à une réunion dans une église. Et là, j'ai accepté le Seigneur. Ma vie a complètement été transformée en 24 heures. J'étais tellement reconnaissant que j'ai promis à Dieu que je ferais connaître Jésus à au moins 10 personnes par jour. Aussi longtemps que Dieu m'en a donné la force, c'est ce que j'ai fait. Plusieurs fois, j'étais malade. Ouais, 10 personnes par jour, il ne fallait pas qu'il allonge, là, mais c'est pour ça que son petit message était direct et puis that's it. Mais il était là. Par plusieurs fois, j'étais malade, je ne pouvais pas le faire, mais quand je le pouvais, je reprenais le temps perdu. Pendant 16 ans, j'ai posé la même question et j'ai donné des feuillets. La meilleure place que j'ai trouvée était la rue Georges, où des centaines de personnes circulent chaque jour. J'ai souvent été rejeté, mais la majorité des gens étaient courtois. Durant toutes ces années, j'ai vu des personnes qui se sont converties, mais je n'ai jamais entendu dire qu'une seule personne à qui j'ai parlé, ait porté du fruit dans sa vie, qui ait persévéré, qui ait continué. Si je ne savais pas, moi, qu'est-ce qui est arrivé de tout ça. Après la visite du pasteur Francis, Frank Jenner a continué fidèlement à poser la même question et donner des feuillets aux passants de la rue Georges pendant 12 autres années. Il a cessé à cause de la maladie. Bien que Frank Jenner ait souffert de narcolepsie, il a tendance à toujours dormir, et plus tard de Parkinson, il était vraiment un homme consacré. Il a montré sa gratitude et son amour à Jésus pendant au moins 28 ans. Durant ces années, il n'a vu que très peu de fruits. Cet homme, sans grand charisme, a témoigné, probablement, à plus de 100 000 personnes pendant sa vie. Peut-on imaginer sa récompense quand il est arrivé au ciel et combien son nom devait être bien connu dans le ciel? Parce que Jésus a dit, « Si vous confessez mon nom devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Fait que plusieurs fois, Jésus aurait dû confesser. Et puis là, ah, encore lui, moi, ouais, okay, qui m'a confessé, ouais. Fait que C'est comme un encouragement que je trouvais. Pourquoi, là? Tu sais, pour nous culpabiliser que je dis ça, là, puis parce que nous, on ne fait pas ça. C'est pas l'idée. C'est juste de dire que, dans le fond, un simple mot d'obéissance ou de reconnaissance, mettons. Un petit traité. Tu sais, j'ai vu Robert qui avait des traités en arrière, tu sais, donner un petit traité. Puis, une petite parole qu'on ne sait pas. Tu sais, un petit café au McDo. Puis parler, tu sais, aux vieux là-bas, tu sais, puis les inviter, persévérer, puis gentiment, tu sais, puis de présenter. Le reste, ça appartient au Seigneur. Mais de briller, de pas mettre sous le boisseau la lampe. Et là, il me reste quelques minutes. J'aimerais ça, pas long. OK, lire mon histoire, ça a été plus long que je pensais, mais... Et sur ça, là, tu sais, verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. » Et là, ça peut sembler justement exclusif, sélectif, arbitraire, même. Moi, j'ai choisi eux autres, puis vous autres, bien, just too bad. Et puis, mais si on regarde le contexte dans son ensemble, où est-ce que ça dit, si vous voyez ici, là, le monde les a haïs. Mais pour qu'ils puissent les haïr, là, ça faisait 3 ans que Jésus leur parlait. C'est pas que j'ai pas essayé, c'est pas que je les ai pas aimés, c'est pas que j'ai pas semé, puis je les ai pas appelés. Mais s'ils voulaient le tuer, ils voulaient le faire mourir, mais ils ne pouvaient pas à cause de la foule. Vous vous souvenez, c'est pas ça? Parce qu'ils ont haï Jésus et ses disciples. C'est parce que Jésus les avait appelés longtemps. Puis là, écoute, je ne prie pas pour eux. Là, je vais prier pour ceux qui ont cru. C'est pas parce qu'ils n'aimaient pas, puis qu'ils étaient insensibles. Et pourquoi est-ce que Jésus ici nous dit aussi, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ceux qui m'ont accepté, je les garde dans le monde parce que j'aime le monde aussi. Je veux aussi que les autres en entendent parler. » Fait que je prie pour eux, puis je les garde dans le monde. Puis si on continue un peu, ça dit, « Père, tu es en moi. » Là, je reprends ici, là. « Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Fait qu'il aspirait à ce que le monde croie, mais par l'entremise des disciples pour lesquels il priait, parce qu'il voulait qu'ils soient un. Et puis, si je continue, il y avait une autre citation dans le texte, « afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse. » Fait qu'il y avait donc cet espoir pour le monde, ce désir que le monde aussi vienne au Seigneur. Et si on pense à ça, moi, je n'arrive pas quand même à réconcilier ces choses-là, mais quand on voit ici Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, parce que Dieu les aimait, qui a envoyé des prophètes et qu'il habite ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu? Je voulais. Je sais que je n'ai pas prié pour le monde cette fois-là, mais je voulais quand même qu'ils viennent. Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu, parce que je ne vous avais pas choisi et que vous n'étiez pas élu. Non, non, moi je voulais. C'est vous autres qui ne vouliez pas. Comme il s'approchait un peu plus loin dans l'évangile de Luc, de la ville, Jésus la voyant pleura sur elle. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais. Là, ça dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il fallait qu'ils soient vraiment hypocrites. Hein? Si, dans sa tête, Jésus pensait, ben là, le Père ne vous a pas attiré, vous n'avez aucune chance de venir, vous autres, puis je vais pleurer sur vous autres. Vous ne pouviez pas venir, je le sais, puis, mais je vais pleurer. Puis c'était même pas vrai parce qu'il ne pouvait pas venir. Non, 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 non. Il pleurait vraiment parce qu'il les aimait. Et donc, il y avait cette réalité-là, d'une responsabilité personnelle. Et tout à la fois, tout dépendait de Dieu qui élit, qui choisit, comment harmoniser ces choses-là, je ne suis pas capable, mais la Bible le dit. Et je veux honorer Dieu de cette façon-là. Tu sais, quand le jeune homme riche est arrivé, « Bon maître, que dois-je faire pour aller... » Puis là, Jésus avait répondu, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Mais Dieu, c'est ça, il est bon. Ce n'est pas arbitraire, méchant, qui ignore certains. « Je vous aime pas, je vous édite pas, puis vous autres, vous êtes mes chouchous. » Non, non. Il est bon, il veut qu'il soit sauvé, et il pleure pour leur salut. Même si ces gens, il pleure pour ces gens-là qui l'ont rejeté. Et c'est dit dans Romains 11, qui est la section de Romains 9 à 11, là, où est-ce qu'il explique pourquoi les Juifs n'ont pas reçu et qui ont été mis de côté. Et puis j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, des drôles de paroles. Puis qu'est-ce que tu as à dire, toi, si le potier fait qu'est-ce qu'il veut avec l'argile, puis qu'il est souverain sur toutes ces choses-là? Et là, il conclut le chapitre 11 en disant, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Alors, comment l'homme peut être responsable quand c'est Dieu qui choisit, je ne peux pas les harmoniser? La Bible affirme clairement, honorons Dieu dans tout ça. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Il est vraiment bon. Puis ça faisait, comme je disais, 3 ans qu'il plaidait avec ces gens-là pour qu'ils viennent à lui. Mon temps est passé. Mais je vous laisse cette question-là d'application. Est-ce qu'on partage les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus pour ceux qui, pour nos Québécois, fermés, durs à l'Évangile? Est-ce que ça nous dérange? Ou est-ce qu'on arrive très bien à vivre avec cette réalité-là, merci? Ou non, c'est pas correct! Ça nous amène à l'action parce que ça dérange Jésus. Puis ça me dérange aussi. Puis peut-être qu'ils vont aller en enfer, mais ça ne sera pas parce que je n'aurai pas tout essayé. Puis oui, je vais me mettre à l'enfer. Puis oui, ça va me coûter quelque chose. Mais non, tu sais, je ne vivrai pas pour ma maison, mon confort, ma retraite, mon char, puis tout ça. Est-ce que ça nous arrive de verser une larme? Et puis, tu sais, je pense qu'on des fois, c'est une neutre. Il faut qu'on embraye, puis qu'on se mobilise, puis qu'on fasse de quoi. Tu sais, je le dis franchement, là, parce que dans la région, il y a très peu, tu sais, on manque de monde. Bien, c'est peut-être pas la bonne façon d'évangéliser qui vous convient, mais choisissez ça un autre, mais ouvrez la bouche, faites de quoi briller. Bon. Et je veux pas, par la force, là, d'exhortation, rendre le monde mal à l'aise, parce que je sais bien que ce n'est pas ça, mais prions, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu sais, si tu veux, là, si tu as à cœur, oui, tu as à cœur. Puis non, je m'en fous pas mal de leur destinée parce que je suis bien content où je suis rendu. Puis je me suis consolé assez vite de leur détresse. Viens changer mon cœur. Donne-moi tes sentiments. C'est beau, on prie? Ô Seigneur, qu'on ne vienne pas, ça dit, si la sentinelle n'a pas ouvert la bouche, tu sais, son sang va être sur nos mains. C'est des paroles dures d'avertissement à ceux qui ont la connaissance et qui se taisent, qui n'interviennent pas pour ceux qui vont périr. Et on te prie pour ta grâce, Seigneur. On veut confesser notre péché et te demander, te prier que tu nous transformes, que tu nous brasses, Seigneur, gentiment mais fermement, Seigneur, pour qu'on soit, on soit plus pareil et qu'on ne soit pas mis au silence par l'ennemi, par la peur, par notre endurcissement, par notre indifférence. On s'en remet à toi, Seigneur, que tu viennes nous transformer dans le nom puissant de Jésus. Amen.